Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour feuilleter avec nous les carnets du monde. On va aller écouter comment on vit ailleurs. Avec une première partie d'émission très COP25 compatible. Vous savez, la COP, c'est cette grande réunion au sommet, deux semaines au chevet de la planète. La 24e édition l'an dernier s'était déroulée à Katowice en Pologne. On s'est demandé si l'organisation de ce sommet sur le climat avait été l'occasion d'une prise de conscience là-bas. Vous l'entendrez, apparemment pas vraiment, le charbon est toujours roi dans cette région de Silésie. Très mauvais pour le climat, ce charbon, et par ailleurs très mauvais pour les océans, le plastique.
Le pire, c'est ces espèces de rubans en plastique qui servent à attacher les sacs poubelles. Les poissons en meurent étouffés parce qu'ils les mangent.
Celui qui parle est un pêcheur italien. Dans la région de Rome, ils ont décidé de ramener à terre tout le plastique qu'ils remontent dans leurs filets. Un cercle vertueux face à une pollution marine catastrophique. On ira rencontrer ces gardiens des mers. La seconde partie des carnets sera très asiatique. Au Japon d'abord, où là aussi on s'apprête à réformer le régime des retraites. Situation extrême là-bas, un pays avec une population de plus en plus âgée et pour une part, des anciens qui sont pauvres.
Vous voyez ça? C'est tout ce qu'il me reste comme argent jusqu'à la fin du mois. Là, aujourd'hui, pour votre venue, j'ai allumé les néons. Mais d'habitude, je m'éclaire à la lumière du jour. Le moindre yen économisé compte.
On vous racontera cette future retraite à 70 ans au Japon. Et puis on sera aussi à Hong Kong, qui il y a une semaine a manifesté avec éclat son attachement à la démocratie grâce aux élections locales. 6 mois après le début du mouvement de résistance à Pékin, on va observer le soutien indéfectible des chrétiens aux manifestants.
Beaucoup de groupes chrétiens se sont rapprochés du mouvement pro-démocratique en raison de leur crainte du communisme et du futur incertain à Hong Kong quant à leur foi, de ce qu'ils pourront faire ou pas.
On parlera aussi littérature étrangère, bien sûr, avec Nicolas Caro. Le roman qu'il a choisi nous replonge dans l'histoire chaotique d'Haïti. Quant à Joseph, il s'est souvenu que demain, ce sera la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Et ses voyages lui enseignent que malheureusement, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. Les carnets du monde sont ouverts. Première destination, la Pologne.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
La COP25, la conférence internationale sur le changement climatique, démarre donc demain à Madrid. Il y a un an, vous vous souvenez peut-être, elle s'était déroulée à Katowice, dans le sud de la Pologne. En Silésie précisément, c'est une région minière la plus polluée d'Europe. Car la Pologne est toujours le premier consommateur de charbon en Europe. Elle reste une très mauvaise élève dans la lutte contre le réchauffement climatique. Rien n'a changé, en fait. Les mines sont de plus en plus grosses et de nouveaux projets sont même en cours. Fanny Boucaud, notre correspondante en Pologne, s'est rendue dans cette région minière. Elle est allée rencontrer des habitants qui se battent contre cet or noir polonais. Reportage.
À 50 km au sud de Katowice se trouve Rybnik, l'une des villes les plus polluées de Pologne. Parmi ses 140 000 habitants, certains se battent depuis 2 ans contre un projet de mine de charbon qui pourrait ouvrir à l'est de la ville. Au moins 500 maisons sont menacées, dont celle de Michał Mrączak. Ce chef d'entreprise a construit sa maison il y a 20 ans dans un lotissement calme aux abords du centre. Grande, moderne, avec un vaste terrain et des panneaux solaires, Michał roule même en voiture électrique. Devant son portail, en face de chez lui, un petit ruisseau, puis une immense forêt. Tout ça, selon lui, va disparaître.
La mine se trouvera à 3 km d'ici. Mais ils vont venir creuser dans le terrain en face et sous nos maisons. Et s'ils trouvent du charbon, ils pourront aller encore plus loin, vers le centre-ville. On ne sait pas. La route à côté peut s'effondrer de 16 mètres, c'est facile à imaginer. Et la forêt devant nous est aussi menacée.
Ils, ce sont les promoteurs de la mine, l'entreprise Bapro. Son président est convaincu que le gisement pourrait rapporter à la ville 25 millions de zlotys par an, soit un peu moins de 6 millions d'euros. Des chiffres invérifiables, d'autant que malgré plusieurs relances, personne de Bapro n'aura trouvé le temps pour me rencontrer. Michał Mrączak s'occupe d'une des associations écologistes de Rybnik. Ils ont récolté 6000 signatures et réclamations contre la future mine, le tout envoyé au bureau régional de la protection de l'environnement qui doit donner son avis sur le projet. Il se doit de répondre à chaque réclamation, donc ça prend du temps. Et c'est exactement le but de l'opération.
Au début, on faisait des réclamations, des pétitions. On s'est entouré d'experts qui connaissent les dégâts causés par les mines. Puis on a fait appel à des ONG et des fondations. Ils nous aident gratuitement. Pour l'instant, il n'y a pas eu de recours devant la justice. Mais on a récolté 10 000 zlotys des habitants du quartier pour faire faire une expertise par un géologue.
Michaud est fatigué de cette situation et pense partir. Il peut se le permettre, même s'il vend à perte. Mais ce n'est pas le cas de sa voisine Anna. À 62 ans, elle a toujours vécu dans cette maison construite par son grand-père dans les années 50. Pas question de la quitter, même si le risque existe que la maison s'effondre dans un gouffre de 3 à 13 mètres de profondeur à cause de la mine.
Comment donner un prix à l'histoire de cette maison ? Un prix pour quelque chose qui nous est cher. Bon, s'il n'y a pas le choix, on sera obligé d'accepter le chèque de la mine. Évidemment, cette maison est vieille, donc nous, dans cette situation, on perdra de l'argent parce que le prix de rachat sera faible.
Ça fait 2 ans qu'Anna sait que sa maison est en sursis.
Lors d'un rendez-vous, le président de la société minière nous a dit que ça allait être une mine écologique. J'ai 62 ans et j'ai jamais vu une mine de charbon qui soit écologique. Je pense qu'il nous a pris pour des idiots. On se sent impuissant, toute ma famille. On ne peut rien faire contre ces sociétés et la décision du gouvernement. On peut juste ramasser nos affaires et partir.
Les habitants de Rybnik espèrent que le gouvernement ne donnera pas son accord pour la mine, même s'ils restent lucides sur leur peu de pouvoir face aux grosses entreprises minières qui s'implantent un peu plus chaque année dans la région. À Imielin, à l'est de Katowice, la mine est déjà là depuis les années 80. Elle s'est développée autour de cette ville de 9000 habitants. Et récemment, l'entreprise PGG, la plus grande productrice de charbon d'Europe, a décidé de creuser un nouveau gisement. Les extractions de charbon vont donc à terme entourer toute la ville, avec des conséquences graves. Le risque d'affaissement est donc la dégradation de près de la moitié d'Imielin. Et malgré tout, difficile ici de mettre les gens dans la rue. Les habitants ont toujours vécu avec la mine. Cela fait partie de l'histoire de la ville, raconte Przemek Ziejewicz, fondateur d'une des 3 associations écologistes.
Le 14 octobre, on a fait une manifestation. Il y a eu 200 personnes dans les rues d'Imielin. Peut-être que ce n'est pas les 1300 habitants qui ont signé la pétition, mais c'était la première manifestation de l'histoire de la ville. C'était vraiment un choc pour les habitants que quelque chose se passe. Je pense que les gens ont besoin d'une initiative, d'un événement pour s'engager pour leur ville.
Les associations d'habitants aimeraient pouvoir parler directement avec PGG. Ils n'ont jamais été consultés sur le projet, mais l'entreprise ne répond ni au téléphone, ni au mail. Beaucoup se sentent trompés par l'entreprise, comme Irène Eouch. Il est tombé amoureux d'Imielin, y a fait construire sa maison il y a 18 ans, sur les bases de documents prouvant que la compagnie minière s'engageait à ne pas creuser sous son terrain. Et finalement, la mine arrivera jusque sous ses pieds. Alors dehors, depuis son jardin, il regarde sa maison avec une certaine tristesse.
La maison n'est pas préparée pour cela. Si le terrain s'affaisse progressivement, cela peut créer des fissures. Car l'exploitation, ça fait comme des petits tremblements de terre. Mais la maison peut aussi se pencher. Tout est possible. On ne sait jamais.
Selon la compagnie, le terrain peut s'affaisser ici de 6 mètres. C'est la hauteur exacte de la maison d'Irène Eouch. Il est prêt à aller en justice contre PGG, mais une de ses amies n'a pas attendu et a préféré déménager. C'est un peu David contre Goliath, disent ici les habitants. Si l'entreprise obtient la concession, les travaux débuteront dans 2 ans. Dans la région de Silésie, Fanny Boucaud, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on retrouve notre correspondante en ligne avec nous depuis la Pologne. Bonjour Fanny.
Bonjour Sophie.
Ces nouveaux forages, par exemple à Imielin, on imagine que ça n'affecte pas seulement des habitations, mais bien tout l'écosystème des environs.
Bien entendu, et notamment une nappe phréatique de 300 km² qui pourrait disparaître entièrement. Son eau approvisionne plus d'1 million d'habitants de la région.
Wow.
Mais évidemment, ça ne se voit pas, donc il est plus difficile de mobiliser les gens pour la défendre. Et pourtant, la Pologne est touchée depuis quelques années par de terribles sécheresses.
Mais c'est le gouvernement qui dit oui ou non, qui donne l'autorisation pour l'exploitation de nouvelles mines ?
Exactement, Sophie. C'est le ministre de l'Énergie qui a le dernier mot. Mais les éventuels dégâts occasionnés par la mine sont gérés par l'entreprise minière. Autant dire qu'il ne se passe pas grand-chose. PGG, par exemple, qui est le plus gros producteur en Europe avec plus de 30 millions de tonnes de charbon par an, eh bien, l'entreprise attend toujours quelques années avant de justement faire venir les experts chez vous pour constater les fameux dégâts. Puis votre dossier passe en commission pour évaluer si c'est bien de la faute de la mine. Et si oui, vous pouvez espérer un dédommagement, mais ça prend beaucoup de temps. Et comme disent les habitants ici, vous pouvez dormir dans une maison penchée pendant très longtemps.
Ceux qui espéraient que l'accueil de la COP24 à Katowice l'an dernier allait provoquer une prise de conscience, une sorte de sentiment d'urgence en Pologne, ceux-là doivent être bien déçus. Hein.
Non, il n'y a pas eu de prise de conscience, ouais. Au moins au niveau de l'État. Alors souvenez-vous, la COP avait même été sponsorisée par l'une des plus grandes entreprises minières polonaises. Le charbon, c'est 80% de l'énergie du pays. La Pologne reste le premier consommateur de charbon en Europe. Elle s'est engagée à réduire pourtant sa dépendance au charbon à 50% d'ici 2040. Mais à ce rythme-là, on ne voit pas très bien comment seront atteints les objectifs fixés par l'Union européenne. Alors même d'ailleurs qu'un récent rapport de la Commission européenne pointe que 80% des mines de charbon en Pologne ne sont pas rentables.
Ouais, c'est le comble. Est-ce qu'il y a sinon des initiatives plus locales, des villes, des citoyens pour essayer de tourner le dos au charbon, de moins polluer ?
Oui, il existe un programme gouvernemental nommé Air Pur pour aider les habitants à changer leur mode de chauffage. Alors sur le papier, 25 milliards d'euros sont prévus d'ici 2029. Mais ça ne prend pas vraiment, beaucoup abandonnent car les démarches sont trop complexes. Sinon, alors oui, dans certaines régions comme en Silésie, toujours on se mobilise contre le smog, ce nuage de pollution essentiellement dû au chauffage individuel au charbon. Certaines villes ont mis en place leur propre programme, les habitants en sont aidés financièrement. Par exemple, pour refaire leur isolation, changer leur vieux poêle à charbon, mettre des panneaux photovoltaïques et solaires sur les toits, mais aussi être raccordé au gaz ou tout simplement au chauffage de la ville. Mais on est très loin de ce qu'il faudrait faire pour être à la hauteur de l'enjeu. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la pollution en Pologne tue quelque 50 000 personnes par an.
Il y a beaucoup de résistance psychologique, notamment parce qu'en Pologne, vous allez me confirmer ça, les mineurs font toujours partie des professions les plus respectées par la population.
Absolument, Sophie. Dans 3 jours, d'ailleurs, le 4 décembre, comme chaque année, les mineurs défileront dans leur bel uniforme boutonné, noir, avec leur casque à plumes. C'est la Balbulka, une fête populaire qui attire toujours les politiques de tous bords.
Voilà, et le charbon, c'est 85 000 emplois directs, 4 fois plus encore d'emplois indirects. La route est encore longue, donc, avant la sortie du charbon en Pologne, malheureusement. Merci Fanny pour cette balade en Silésie. À très bientôt.
À très bientôt Sophie.
Après le charbon, le plastique. On file vers l'Italie, où des pêcheurs remontent de curieux poissons dans leurs filets.
Europe 1, les carnets du monde.
Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 explorent et racontent le quotidien aux quatre coins du monde jusqu'à 14h. Oui, vous écoutez les carnets du monde. La COP25 qui démarre demain à Madrid est aussi appelée la Blue COP, car elle sera au chevet des océans. On en parle sur Europe 1 avec vous, Sophie Larmoyer.
Nous voilà au bord de la Méditerranée, en Italie depuis près d'un an. Des marins sont partis en guerre contre les déchets plastiques qui polluent la mer. Chaque jour, ils en remontent plusieurs kilos dans leur filet, un véritable travail d'éboueur qui est autorisé depuis quelques mois seulement dans certains ports. Pourtant, ces pêcheurs italiens en sont les premiers témoins. Il est urgent d'agir. L'Italie est l'un des plus gros pollueurs en Méditerranée et les déchets font des ravages sur la faune maritime. Alors, en attendant que les choses bougent au niveau national, localement, certains s'organisent seuls. Blandine Hugonnet est allée rencontrer ces pêcheurs de plastique qui tentent de nettoyer la mer. Reportage.
Comme chaque jour, vers 15h, les cris des goélands annoncent le retour des premiers chalutiers. Nous sommes à Anzio, une petite cité touristique du sud de la région de Rome et un des ports de pêche les plus importants de la côte méditerranéenne.
Ça, c'est du poisson friture. Ça, des sèches, des poulpes, là, des merlus.
Sur le quai, appuyé sur sa canne, Ciro observe le déchargement du haut de ses 80 ans. Il est le président de l'association locale de pêcheurs.
Là, ils sortent tout le poisson pour la crier. Ils sont partis dans la nuit et ne reviennent que maintenant.
Sauf qu'ici, après 13 heures passées en mer, le travail de ces pêcheurs ne s'arrête pas. Bottes aux pieds et combinaison orange à bretelles, Kamel et Alessio remontent sur leur bateau.
Là, on doit trier tout ce plastique. Regarde tout ce qu'on a trouvé dans la mer. Des caisses, des poubelles et même des vieilles chaussures. Un sac de croquettes, c'est hallucinant. Il y a tout et n'importe quoi et surtout trop de plastique.
Des bouteilles, un filet de patates. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, on remplit un ou deux gros sacs comme ça.
Tous ces déchets qu'on trouve, on les rapporte à terre et on les jette dans les containers qui sont là.
Ils appellent ça l'île écologique, une mini-décharge à quelques pas du navire. Elle a été mise en place en mars dernier par arrêté municipal et depuis, elle leur évite des centaines d'euros d'amende. Car ici, comme dans toute l'Italie, il était interdit jusque-là de débarquer le plastique sur le port, explique Angelo. Il est en train de pousser un énorme espadon sur un chariot.
En gros, avant, quand on revenait au port, on ne pouvait pas débarquer le plastique parce que c'est considéré comme un déchet toxique. Sinon, il fallait payer une société spécialisée dans la récupération. C'était notre responsabilité. Et du coup, beaucoup rejetaient dans la mer ce qu'ils avaient récupéré. Parce que si on le débarquait au port sans le déclarer, on se prenait une prune. Maintenant que c'est officiel, on peut le faire tranquillement.
Comme Angelo ici, tout le monde s'est vite investi. Désormais, les 28 chalutiers du port déchargent chaque jour une dizaine de kilos de déchets chacun, récupérés sur une centaine de kilomètres de côte. Sauvegarder la mer, c'est une mission pour tous ces pêcheurs.
Pour nous, surtout, les chalutiers qui récupéreront de tout. Nos filets, c'est comme une grande coupelle qui ramasse tout, parce qu'on pêche dans les profondeurs. En ce moment, on pêche à partir de 40 mètres jusqu'au fond. Donc, comme les balayeurs qui nettoient la rue, nous, on se doit de nettoyer la mer.
Mais vu l'étendue de la pollution en mer, c'est toute la population locale qu'il a fallu aussi mobiliser, raconte Chiro.
Le pire, c'est ces espèces de rubans en plastique qui servent à attacher les sacs poubelles. Ça, on en voit partout et ils restent en mer pour toujours. Les poissons en meurent étouffés parce qu'ils les mangent et ça reste dans leur estomac. Donc nous, comme protecteurs de la mer, on a voulu sensibiliser tout le monde, comme les enfants, pour qu'ils ramassent les déchets. Maintenant, les plaisanciers et les plongeurs d'Anzio le font aussi. Et depuis cet été, la mairie a pris un arrêté. Tout type de plastique est interdit sur les plages.
Casquette sur la tête, les mains encore mouillées, Lorenzo descend tout juste de son chalutier, le poisson volant. Le tout premier navire qui a osé rapporter le plastique à terre. Le capitaine est en colère, mais optimiste pour l'avenir.
Ah, le plastique, ça fait 50 ans qu'on en trouve. Tout le monde prend la mer pour une décharge. Les pétroliers, les bateaux de commerce, les bateaux de croisière. Mais le problème, ce n'est pas la pollution en mer, c'est en amont, à terre, dans les fleuves, les embouchures. Toute la crasse finit toujours dans la mer, en fait. Mais je crois qu'on est utile quand même. Ça se voit dans nos filets qu'il y a moins de machins en plastique au milieu de nos poissons, alors qu'on a commencé il y a moins d'un an.
Mais Lorenzo est inquiet. Parfois, il ne peut pas aller au large pendant des jours. Les poissons se font de plus en plus rares. Alors, quitte à faire le pêcheur de plastique, il voudrait que sa nouvelle activité soit reconnue.
C'est tout un travail qu'on doit faire en plus, et sans prendre un euro au passage. Jusqu'à maintenant, on fait tout gratuitement. Donc, comme on est déjà en difficulté pour continuer à travailler, si un ministre nous propose une sorte de prime ou une réduction de nos taxes, ça nous donnera un bon coup de main. Bon, j'aime pas trop qu'on nous appelle les éboueurs des mers, même si mon métier est clairement en train de changer. Mais je préfère plutôt dire qu'on est les gardiens de la mer. Moi, la mer, c'est toute ma vie.
Face à Lorenzo, les containers à déchets débordent. Ils seront vidés le lendemain au petit matin par les camions poubelles de la ville. Direction le centre de tri local pour un recyclage spécifique du plastique. Toute une organisation qui fait tache d'huile en Italie, prenant Anzio comme modèle sur les côtes italiennes. De plus en plus de collectifs de pêcheurs décident à leur tour de partir à la chasse au plastique et d'organiser à terre un ramassage légal avec les autorités locales. Anzio, Blandine Hugonnet, Europe 1.
De retour des bords de mer, on est en ligne avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine.
Bonjour Sophie.
Alors on l'a entendu, les pêcheurs s'organisent chez eux localement, mais au niveau national, rien n'est prévu?
En fait, une loi est en cours d'examen. Ici, elle s'appelle « Sauver la mer ». Et justement, l'idée, c'est de rendre légal ce travail des boueurs des mers et aussi de l'encourager. Les pêcheurs bénévoles ne seront pas aidés financièrement, mais ils auront droit à une sorte de label écologique. En tout cas, cette pêche au plastique ne leur coûterait rien puisque les communes s'occuperont de tout. Installer les décharges dans les ports, prévoir le transport vers les centres de tri spécifiques au traitement des matières plastiques. Et les syndicats, eux, proposent d'aller encore plus loin. Ils voudraient un système d'économie circulaire où le plastique serait recyclé en hydrocarbures pour alimenter les moteurs des chalutiers. Alors comment financer tout ça? Eh bien, grâce aux citoyens. La loi prévoit de gonfler un peu l'impôt sur les déchets déjà payé par les propriétaires italiens. Et ce texte a eu le feu vert des députés il y a un mois et il attend maintenant celui des sénateurs.
Alors ok pour l'économie circulaire notamment, mais l'objectif est d'abord écologique j'imagine, car l'Italie a une dette envers la mer, hein?
Oui, alors il faut comprendre que les deux tiers de l'Italie sont cernés par la mer et que chaque jour, plus de 1000 tonnes de plastique s'y déversent directement, ce qui fait que la péninsule est un des plus gros pollueurs en Méditerranée. D'ailleurs, l'eau sale et les plages polluées, ça fait fuir les touristes et représente une perte de 67 millions d'euros chaque année. Selon les calculs des organisations de protection de la nature, si rien n'est fait d'ici 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et le ministre italien de l'Environnement a même parlé d'urgence planétaire.
Alors justement, est-ce que les politiques italiens se sont saisis de ces questions environnementales ?
Là, disons que l'intérêt des politiques est plutôt récent. En Italie, le ministère de l'Environnement a été créé par la gauche en 1986, c'est-à-dire 15 ans après la France. Mmh. Et le premier décret de l'histoire de la République italienne concernant le climat, il a été validé il y a seulement 10 jours. Il prévoit des mesures d'urgence comme replanter des arbres dans les villes, favoriser les transports électriques, les énergies renouvelables. Il faut dire que le bilan de la botte est alarmant. Par exemple, en Europe, c'est en Italie qu'on meurt le plus de la pollution aux particules fines. Mais le pays essaie de se rattraper. Une Italie plus verte, c'est une priorité pour le gouvernement. L'exécutif veut un impôt sur le plastique dès 2020, une taxe de 50 centimes sur chaque kilo d'emballage non recyclable. Mmh. Et puis, dans un an, à la rentrée scolaire, les petits Italiens devront suivre 33 heures de cours sur l'année sur les changements climatiques et l'écologie. Et là, l'Italie est précurseur. C'est une première mondiale.
Ah, l'éducation essentielle. On a vu la mobilisation des jeunes ces derniers mois, très en pointe pour la défense de la planète. Merci beaucoup, Blandine, d'avoir partagé avec nous cette belle énergie des pêcheurs de la région de Rome, éboueurs et gardiens de la mer. Et ils ont du boulot. Je rappelle ce chiffre édifiant, plus de 1000 tonnes de plastique déversées dans la Méditerranée directement depuis l'Italie chaque jour. À bientôt, Blandine, dans les carnets.
Ciao, Sophie, à bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h24, les carnets, c'est aussi un livre, Sophie Larmoyer, un livre dans le monde. Allez, c'est le moment de parler littérature étrangère avec Nicolas Carreau.
Et oui, il est de retour. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Cette semaine, vous nous emmenez dans un pays qui est dans la tourmente, Haïti, un pays en pleine révolte contre la corruption et le coût de la vie. Et vous, Nicolas, vous avez rencontré un auteur haïtien qui parle de son pays dans un roman.
Et oui, figurez-vous que j'étais en Guadeloupe la semaine dernière pour le festival Écriture d'Amérique. J'étais avec une douzaine d'écrivains et une armée de bénévoles qui essayent de diffuser la littérature là-bas, un peu partout sur l'île, dans les médiathèques, les centres culturels, les écoles. Oui, c'est toujours très émouvant, ces festivals comme ça, là, qui font beaucoup de choses pour la littérature. Et parmi ces auteurs présents, il y avait Mackenzie Orcel, un auteur haïtien. Il publie chez Ulma, vous savez, la belle maison d'édition avec les couverture merveilleuse, très colorée. Son dernier livre s'appelle Maître Minuit. C'est un livre complètement dingue.
Et qui se passe en Haïti, donc.
Oui, ça commence avec une bonne gifle pour le lecteur. On est dans ce qui est surnommé le dépotoir et qui est en fait une sorte d'hôpital. Okay. Mais les conditions sont tellement extrêmes qu'effectivement, dépotoir lui convient mieux. Je vous lis le tout début. J'essaie de bouger. Une douleur intense me saisit de la plante des pieds à la poitrine, telle des milliers de piqûres d'abeilles. Au fur et à mesure, je découvre ce qui m'entoure. Je suis à l'hôpital général. La chambre est étroite, ça schlingue, il fait chaud, mes vêtements sont trempés, les écoulements de sang ne sont pas tout à fait empêchés par les pansements. J'ai un bras sous perfusion, l'autre est menotté au fer du lit, mes pieds dépassent. Des dizaines de corps sont affalés pêle-mêle sur des matelas crevés, sur des civières ou à même le sol crade jonché de chiffons sanguinolents et couverts de mouches. D'autres suivent, ça déferle jour et nuit.
Voilà, le décor est planté. Que s'y passe-t-il dans cet endroit terrible ?
Eh bien, on rencontre Poto, c'est lui qui parle. Il est donc menotté à un lit d'hôpital et il commence à raconter son histoire à son voisin. Flashback, on retrouve Poto, enfant, qui essaye de suivre sa mère, Marie-Elita Démosthène Laguerre. D'ailleurs, le nom est toujours écrit en entier. Jamais, il n'y a jamais de diminutif, c'est toujours Marie-Elita Démosthène Laguerre. Il a du mal parce qu'elle, elle n'a pas envie qu'il la suive. Enfin, elle ne le voit même pas. Elle est défoncée à la colle. Vous savez, cette drogue qui détruit complètement le cerveau de ceux qui en sniffent. Bref, Poto est abandonné. Il va devoir vivre sa vie et on le suit à travers 50 ans d'histoire d'Haïti. On traverse le pays et le temps avec lui, comme Maître Minuit, qui est un géant qui marche la tête dans les nuages et qui a donné son nom au livre de Mackenzie Orcel.
Maître Minuit, c'est un personnage mythique légendaire qui appartient à la mythologie vaudou. Il sort toutes les nuits à minuit pile, il traverse le pays, Haïti, le monde. Et je me suis inspiré de cette figure légendaire pour nourrir mon personnage Poto, qui lui traverse 60 ans d'histoire haïtienne.
C'est-à-dire qu'il avance toujours, quoi qu'il arrive.
Comme Poto, malgré les tontons Macoutes, vous savez, les tueurs de la milice de François Duvalier, le dictateur surnommé Papadoc, il avance et comme l'écriture de Mackenzie Orcel, qui ne connaît pas d'obstacle puisqu'il a enlevé toutes les majuscules. Je lui ai demandé pourquoi.
Parce qu'il n'y en a pas, parce que ce n'est pas important. Un mot, c'est la force de frappe. C'est pas la majuscule ni la minuscule. Il n'y a pas de majuscule parce que je voulais mettre les lettres, toutes les lettres de l'alphabet à taille humaine contre ce grand pays, Papa Avi, qui a écrasé, écrabouillé, dominé ce pays pendant 3 décennies.
Alors c'est un peu étonnant au début, puis on s'y fait très bien, et ça crée comme une sorte de flux continu.
Et alors, je reviens à l'histoire, Poto, il s'en sort dans ce marasme ?
Alors, je ne vous raconte pas tout, mais il va essayer, oui. Et notamment grâce au dessin. Il dessine tout ce qui passe.
Le dessin pour Poto, c'est la force du rêve, c'est la passion. Ça lui permet de respirer, ça lui permet de poser un autre regard sur ce pays, sur lui-même, et de se tracer son propre chemin.
Le dessin, l'art qui sauve, et la vie de Poto et d'Haïti, qui est à retrouver donc dans Maître Minuit chez Zulma. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie.
Et puis, quelle belle voix. C'est magnifique. Il a une très belle voix, Mackenzie Orcel.
Grand écrivain, en plus.
À tout à l'heure, on vous retrouve pour La Voix est libre, ça dès marche. 14h. À suivre, les retraites, on en parle beaucoup ici en France, mais aussi ailleurs, notamment dans l'un des pays les plus vieillissants au monde, c'est le Japon.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h30, des reportages, long format, des rencontres, un voyage sonore pour découvrir l'inconnu. C'est votre rendez-vous du dimanche entre 13h et 14h sur Europe 1. Et c'est au Japon que les carnets du monde nous emmènent maintenant au chevet des retraités nippons. Avec vous, Sophie Larmoyer.
Le gouvernement est en séminaire aujourd'hui pour caler la feuille de route sur la réforme des retraites. Syndicats et patronats ont été à nouveau consultés cette semaine et tout le monde a en tête la grande mobilisation sociale prévue jeudi contre la future réforme. Faudra-t-il travailler plus vieux ? Les pensions seront-elles moindres ? Les cotisations plus élevées ? Beaucoup de questions encore sur la future réforme des retraites qui devrait instaurer à terme un seul régime universel au lieu des 42 existants aujourd'hui. Le projet de loi sera présenté début 2020. Cette réforme des retraites s'annonce délicate. Mais ce n'est rien à côté du casse-tête auquel fait face le Japon. Et on en parle aujourd'hui dans les carnets avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
On a choisi de regarder de près la situation chez vous au Japon, notamment parce que c'est l'un des pays les plus vieillissants au monde.
Ah oui, imaginez, ici 28% de la population a plus de 65 ans. C'est un record mondial.
Et du coup, le système de retraite va droit dans le mur ?
Voilà, à cause de cette satanée pyramide des âges qui, au Japon, se retrouve la tête en bas. Et c'est complètement inversé. Ouais. Les retraites doivent être payées de plus en plus longtemps, car les Japonais vivent de plus en plus vieux. Ça, c'est très bien. Mais dans le même temps, il y a de moins en moins d'actifs qui cotisent au régime de retraite à cause de la dénatalité.
Ouais, donc c'est mathématique, ça ne peut pas marcher. Ce que confirment deux rapports officiels publiés récemment, m'avez-vous dit, et qui ont provoqué un véritable coup de tonnerre dans l'opinion.
C'est ça. D'abord, une étude a carrément recommandé à chaque Japonais de mettre de côté 20 millions d'yens, ce qui fait 170 000 euros, avant l'âge de 65 ans. Faute de quoi, il n'arrivera pas à joindre les deux bouts, car sa pension de retraite ne lui suffira pas pour vivre. Et puis, un autre rapport a averti que le montant des pensions allait diminuer dès l'année 2040. Il ne correspondra plus qu'à 50, voire 40% du salaire perçu avant le départ à la retraite, contre plus de 60% en ce moment.
On comprend que ces annonces aient tétanisé les Japonais.
Oui, écoutez, c'est quelques tokyoïtes à qui j'ai tendu mon micro dans la rue.
20 millions à économiser avant 65 ans. Mais j'ai 35 ans, moi. On aurait dû me le dire plus tôt.
Plus on vieillira, moins on aura de ressources financières. Mais plus nos dépenses de santé, elles, vont augmenter. C'est stressant comme perspective. J'essaye de ne pas trop y penser.
C'est pénible. Je ne me vois pas du tout travailler jusqu'à 75 ans.
La dénatalité va s'accélérer, donc qui dit que 20 millions d'économies suffiront pour ne pas vieillir pauvre ? Si ça se trouve, il en faudra 30 ou 40. Ce n'est vraiment pas rassurant.
Ce système de retraite va devenir un fardeau trop lourd à gérer pour les prochaines générations.
Voilà un petit panel d'opinions que vous avez recueilli, Bernard. Parmi tous ces Japonais préoccupés par leurs vieux jours, on l'entend, il y a beaucoup de femmes.
Oui, car au Japon, elles occupent deux fois plus souvent que les hommes des emplois précaires et irréguliers, qui sont mal payés. Dès lors, beaucoup ne gagnent pas assez pour mettre de côté une telle somme en vue de leur retraite. C'est le cas par exemple de cette caissière de supermarché que j'ai rencontrée, qui élève seule ses deux adolescents.
Je n'ai commencé à travailler qu'il y a 4 ans, à la suite de mon divorce, quand j'ai dû subvenir toute seule à mes besoins. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. Et là, tout d'un coup, on me dit que je n'ai pas le choix, qu'il faut impérativement que je mette de l'argent de côté. C'est dur. Avec juste mon petit salaire, à la fois, élever les gosses, payer le loyer, les charges, les dépenses de la vie quotidienne, et en plus, économiser en vue de la retraite. Je n'y arriverai pas, c'est sûr.
En plus, beaucoup de femmes ont des carrières incomplètes à cause de leur congé de maternité, par exemple. Alors apprendre qu'en plus cette très petite pension de retraite risque de diminuer mécaniquement, ça devient très angoissant comme perspective, notamment pour cet intérimaire.
Quand je serai retraitée, est-ce qu'une si petite pension me suffira pour vivre? Ou est-ce que je vais devoir travailler jusqu'à la fin de mes jours sous peine de vieillir sans le sou? Cet inconnu me stresse.
Alors vieillir sans un sou, c'est déjà le quotidien de beaucoup de retraités japonais, hein, n'est-ce pas Bernard?
Oui, parce qu'ici, un retraité sur deux n'a pas d'autres ressources que sa petite pension de retraite. C'est le cas par exemple de cette veuve de 66 ans qu'on va entendre ensemble. Elle n'a aucune épargne. Et donc, quand elle a payé toutes ses factures, il ne lui reste que 6 à 700 yens par jour pour manger, soit 5 à 6 euros. Wow. Du coup, elle ne fait que 2 repas par jour.
Vous voyez ça? C'est tout ce qu'il me reste comme argent jusqu'à la fin du mois. C'est pas énorme, hein? Là, aujourd'hui, pour votre venue, j'ai allumé les néons. Mais d'habitude, je m'éclaire à la lumière du jour. Puis le soir, grâce à la télé. Le moindre yen économisé compte. C'est clair que ma qualité de vie serait grandement améliorée si je touchais une retraite un peu plus élevée. Je serais plus sereine aussi. Ces questions d'argent, ça me mine. Je dois bien reconnaître que jamais je n'avais imaginé que je vivrais une retraite aussi pénible.
Cette dame, on l'entend, finalement, elle vit la pauvreté, Bernard, et elle est tout sauf un cas unique, hein, vous nous le confirmez.
Tout à fait. Au Japon, 1 senior sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est le record des pays industrialisés. Ce qui explique que beaucoup de retraités continuent à travailler. C'est le cas de 55% des hommes et de 35% des femmes âgées. Ça fait 9 millions de seniors qui travaillent. À eux seuls, ils représentent 13% de la population active. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus qu'en France. Ouais. Travailler, c'est ce que fait cette veuve alors qu'elle a 75 ans. 3 matins par semaine, elle fait des ménages.
Je suis inquiète pour l'avenir. Maintenant, ma santé me permet plus ou moins de faire ce travail, mais demain. Or, j'ai besoin de ce revenu complémentaire pour vivre. Ma hantise, c'est de tomber gravement malade. Les soins de santé coûtent cher dans ce pays. Donc j'économise pour que le jour venu, mes frères et sœurs n'aient pas à payer mes factures d'hôpital. Année après année, je me dis, allez, même si c'est dur, essaye de continuer ce boulot encore un an, mais... Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 80 ans et que physiquement, je ne serai plus capable de gagner ma vie?
Situation très compliquée, hein, on le comprend bien. Que compte faire le Japon? Est-ce qu'il y a des pistes de réforme qui sont déjà sur la table?
Écoutez, Yuri Okina, elle est l'une des spécialistes des régimes de retraite. Elle a d'ailleurs été consultée par le gouvernement en vue de cette réforme.
Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. D'abord, augmenter les recettes. En clair, faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui cotisent au régime de retraite. Par exemple, les entreprises devraient se montrer plus souples, accepter d'employer du personnel âgé, pas seulement à temps plein, mais aussi à mi-temps, comme beaucoup de retraités le souhaiteraient. Ensuite, il faudra réduire les dépenses en étant plus équitable en termes de prestations sociales. Dans un tel système, les seniors aisés verraient leurs dépenses moins bien remboursées par la Sécu que les personnes âgées défavorisées.
Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, Bernard? Une sorte de sécurité sociale à géométrie variable pour les seniors, en somme?
Alors, en ce qui concerne la réduction des dépenses, et notamment cette question du remboursement des soins de santé, le gouvernement tarde à se prononcer, parce qu'il est dans ses petits souliers, vu le poids électoral des personnes âgées. Par contre, on y voit plus clair sur l'autre grand axe de la réforme, à savoir comment faire pour que davantage de gens cotisent au régime de retraite, ce qui les ferait sortir du rouge.
Concrètement, comment ils vont faire?
Eh bien, on va sans doute obliger les entreprises à garder jusqu'à l'âge de 70 ans leur personnel âgé qui désire continuer à travailler et non plus le garder jusqu'à 65 ans, comme maintenant. On va aussi essayer d'aider les 30% de japonaises qui n'occupent pas d'emploi à en trouver un. Souvent, elles ont dû y renoncer à la naissance de leur enfant à cause de la pénurie de crèches. L'idée est donc de créer des places de crèches pour lever ce frein à l'emploi. Et dernière chose, tous les travailleurs précaires devraient être autorisés à cotiser au principal régime de retraite. Aujourd'hui, ils n'ont accès qu'à un sous-régime qui alimente peu les caisses de la Sécu. Or, ils sont très nombreux au Japon. 40% des salariés occupent un emploi sous-statutaire. Ça fait plus de 20 millions de travailleurs précaires en tout. Donc, si eux aussi avaient accès au principal régime de retraite, ça lui donnerait une fameuse bouée d'oxygène.
Bref, le débat progresse, mais ce n'est pas très réjouissant pour les retraités, hein, si je vous entends bien quand même.
Non, et d'ailleurs, d'après les sondages, les Japonais ne sont pas optimistes. Seuls 28% jugent le système de retraite viable à terme.
Comme quoi, sauver les régimes de retraite, c'est vraiment le défi à relever un peu partout dans le monde. Merci Bernard pour ce coup de projecteur depuis le Japon, le pays aux 71 238 retraités qui sont aussi centenaires, m'avez-vous dit, carrément. Merci beaucoup, à une prochaine fois dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à très bientôt.
Et on va rester en Asie. Le prochain reportage nous plonge dans la révolte de Hong Kong, où l'Église catholique est l'un des soutiens des manifestants.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h41, Sophie Larmoyer. C'est l'heure de prendre la direction de Hong Kong, où la révolte ne faiblit pas.
Hong Kong, une semaine après la victoire des partis pro-démocrates aux élections locales, c'est un véritable raz-de-marée, un 81% des suffrages, et donc un camouflet historique pour les partis pro-gouvernementaux et pro-chinois. Depuis le début, Sébastien Lebelzik nous raconte cette révolte sur Europe 1. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
Vous étiez à Hong Kong pour ce scrutin, vous avez suivi les manifestations depuis 6 mois. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ?
Écoutez, après des semaines de violence et notamment l'occupation pendant plus d'une semaine de l'université polytechnique de Hong Kong par les étudiants, le calme apparent est revenu. Ces élections locales ont pris une importance toute particulière. Ils ont validé de manière éclatante le soutien massif de la population aux manifestants. Avec plus de 71% de participation, c'est énorme. Ouais. C'est la première fois en fait que les partis démocrates remportent ainsi ce scrutin qui ressemblait surtout à un référendum. Et c'est un calme précaire à Hong Kong parce que cette victoire du camp démocrate aux élections est certes une bonne surprise, mais le gouvernement local et surtout Pékin ne semblent pas décidés à tendre la main aux démocrates et à répondre à leurs demandes.
Vous nous rappelez quelles sont leurs revendications ?
Alors au départ, il s'agissait de demander l'annulation d'une loi sur l'extradition vers la Chine continentale. La loi a bien été annulée, mais aujourd'hui, plus largement, il s'agit pour les manifestants de demander des comptes. Une enquête indépendante sur les violences policières, la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif soutenue par Pékin, et surtout le suffrage universel pour toutes les élections à Hong Kong et pas seulement pour ce scrutin local, celui qui a eu lieu dimanche dernier. Les Hongkongais veulent notamment choisir directement leur chef de gouvernement et ils veulent des garanties quant au respect des libertés.
Alors, il y a un élément important depuis le début de ces 6 mois de crise. Il s'agit du rôle des religions et surtout des chrétiens de Hong Kong dans ce mouvement. C'est le coup de projecteur qu'on a choisi de donner aujourd'hui dans les carnets. Un Hongkongais sur 10 est chrétien. La moitié des écoles sont des établissements religieux. Même la chef de l'exécutif dont vous parliez, Carrie Lam, est catholique. C'est un héritage de la période coloniale britannique. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'inquiètent et se mobilisent. On écoute votre reportage, Sébastien.
Des milliers de jeunes chrétiens qui chantent Alléluia sur les barricades, c'est l'un des symboles des manifestations qui durent depuis 6 mois à Hong Kong. Parmi eux, ce jeune manifestant qui participe à une prière collective face au siège de la police.
J'ai rencontré sur Internet un groupe de jeunes chrétiens et nous avons décidé de nous retrouver ici. On chante pour appeler au calme et à la réconciliation. On appelle Dieu pour qu'il nous aide ici dans cette situation et qu'il amène la paix et calme la police. En tant que chrétien, on se sent très concerné par la liberté de culte. En Chine, l'oppression contre les religions est très inquiétante, pas seulement contre les chrétiens, mais contre toutes les religions, y compris l'islam. J'espère que nous pourrons conserver notre liberté à Hong Kong et continuer à prier.
Depuis le début du mouvement, les églises se sont engagées auprès des étudiants. Elles ont notamment ouvert leurs portes aux manifestants pourchassés par la police. Ce prêtre de 70 ans qui préfère rester anonyme est là tous les soirs aux côtés des manifestants blessés.
Des milliers de gens sont venus, des milliers qui étaient blessés, qui pleuraient, criaient. Ils sont venus ici et l'église sera toujours un hôpital pour tous et un refuge pour tous. Et je me tiendrai aux côtés des jeunes, toujours comme Dieu le Père. Toujours aux côtés des opprimés, des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. C'est une question d'humanité, de dignité de la personne. C'est la liberté de chacun, c'est la démocratie.
Contrairement au reste de la Chine, Hong Kong garantit la liberté de culte. Une liberté qui pourrait disparaître, comme l'explique Kenneth Chan, professeur de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong.
Beaucoup de groupes chrétiens se sont rapprochés du mouvement pro-démocratique en raison de leur crainte du communisme et du futur incertain à Hong Kong quant à leur foi, de ce qu'ils pourront faire ou pas. Je pense que la religion joue un rôle très important, même si ce n'est pas le plus visible. Mais c'est important en raison des craintes de ceux qui sont impliqués dans des activités religieuses à Hong Kong et en Chine. Et qui pourrait être une cible, qui pourrait être pourchassée par la Chine en raison de leurs activités religieuses. Des activités qui sont devenues extrêmement dangereuses en raison de la politique menée par Xi Jinping contre les religions.
Le régime communiste mène en effet une guerre contre les religions, enlevant les crucifix des églises, arrêtant les missionnaires étrangers et enfermant dans des camps plus d'un million de musulmans. Une bataille qui explique aussi ce regain de ferveur dans les églises de Hong Kong.
Retour dans le studio d'Europe 1 avec Sébastien Lebelzik qui est toujours en ligne avec nous. Alors il y a une figure particulièrement importante dans ce mouvement, Sébastien. Il est à la fois catholique et dans l'opposition, c'est celle du cardinal Zen. Vous l'avez rencontré à Hong Kong, qui est-il ?
Oui, il est âgé aujourd'hui de 87 ans. Cet ancien évêque de Hong Kong est l'une des figures les plus importantes de l'opposition. En 1948, il a fui Shanghai, juste avant l'arrivée des communistes de Mao Tse-tung. Mm-hmm. Et ces dernières décennies, il n'a eu de cesse de combattre le régime de Pékin qu'il qualifie de liberticide. Pour lui, pas de doute, il faut soutenir ces jeunes manifestants.
Certains voudraient qu'on dise publiquement qu'on se désolidarise de ces jeunes gens, les plus énergiques, les plus courageux des manifestants. Mais moi, je ne crois pas qu'il faille les lâcher, parce qu'on poursuit le même objectif, celui du droit. Ils sont dans le même camp que nous, mais ils ont franchi une marche de plus. Alors je pense qu'il faut les considérer comme faisant partie de notre camp, comme des frères. Et je crois qu'il faut mettre en garde ces jeunes gens, mais que c'est à la police qu'il faut faire des reproches. Parce qu'il y a une disproportion entre ce que font les manifestants et la violence dont fait preuve la police. C'est incroyable. On ne croit pas que ce soit la police de Hong Kong.
Oui, sous-entendu, le cardinal Zen pense que les violences policières sont d'abord le fait de policiers venus de Chine continentale, mais surtout, il s'en prend à sa hiérarchie, au Vatican, car le Saint-Siège ne dit rien sur la situation des droits de l'homme, alors qu'il prend souvent la parole lorsqu'il s'agit de défendre les droits de l'homme partout dans le monde. Pour le cardinal Zen, c'est le rapprochement du Vatican et de Pékin qui est en cause.
Je crois qu'on a très peu d'espoir pour Hong Kong, alors qu'on a déjà perdu tout espoir pour la situation de l'Église en Chine. Et c'est un très gros problème. Aussi parce que je crois que le Vatican se trompe lourdement. Il règne une dictature évidente au Vatican. Il ne nous écoute pas. Je suis l'un des deux cardinaux chinois. Je suis né en Chine, venu ici à Hong Kong, où j'ai toujours vécu, jamais à l'étranger. De 1989 à 1996, j'ai enseigné au séminaire en Chine. Pendant 7 ans, je passais 6 mois de l'année en Chine. Je connais parfaitement la situation. Et puis je fais partie du Vatican. Le pape Benoît XVI m'a fait cardinal. Et il avait mis en place une commission sur la Chine. Et là, le nouveau secrétaire d'État au Vatican a fait disparaître la commission. Purement disparaître. Et c'est un signe très clair que le secrétaire d'État contrôle le pape. Il veut juste obtenir d'avoir des relations diplomatiques avec Pékin. C'est un rêve pour inscrire son nom dans l'histoire. Mais il le fait contre la foi. Il a vendu notre Église complètement. Ce qui se passe est tout bonnement incroyable. Comment peuvent-ils faire confiance à un tel gouvernement ?
Vous l'avez entendu, le cardinal Zen n'a pas sa langue dans sa poche. En revanche, l'épiscopat est plus discret. Tout le monde, d'ailleurs, à Hong Kong, pèse ses mots. Les gens ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'être extradés vers la Chine. Mais surtout, ils sont très inquiets pour leur avenir. Une grande manifestation est d'ailleurs encore prévue le 8 décembre. Une façon pour le mouvement démocratique de capitaliser sur cette victoire de dimanche dernier.
Ouais, je ne doute pas que vous nous raconterez la suite de cette révolte des Hongkongais sur Europe 1. Merci beaucoup Sébastien pour ce coup de projecteur sur les chrétiens de Hong Kong. À très bientôt.
À très bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Philippe Bellé à l'instant sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Sophie Larmoyer pour quelques minutes encore. Et il fait partie de l'équipe des carnets du monde. Il nous emmène chaque semaine pour un petit voyage en autistan. Joseph Chovanec nous a rejoint.
Voyageur, philosophe et autiste Asperger, saltimbanque de l'autisme, aimez-vous dire bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Demain, ça n'est pas seulement le début de la COP25, ça n'est pas seulement J-3 avant la grande grève, c'est aussi, et c'est le cas chaque 2 décembre, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage.
Oui Sophie, quand on entend ce mot esclavage, on pense à une période reculée. Hein. Mais au cours de mes voyages, j'ai pu voir la pérennité de la notion d'esclavage. Alors bien sûr, il y a les lieux de mémoire, hein. Par exemple, on marche dans la forêt tropicale, dans les fascinantes ruelles historiques de Zanzibar, et bim, on tombe dessus. En Europe, on en a aussi. La paisible Belgique est actuellement secouée par une tourmente à cause des nombreuses rues Léopold II, dont les atrocités au Congo ne peuvent plus être niées.
Mais pourquoi parlez-vous de pérennité ?
Mais il y a des signes contemporains de l'esclavage. J'ai beaucoup fréquenté des pays où on rencontre des gens qui ont directement eux-mêmes connu l'esclavage. Par exemple, des pays de la péninsule arabique qui ont une longue histoire en lien avec la côte est de l'Afrique, entre autres avec Zanzibar. Alors, la jeune génération ne se sent pas concernée, mais dans les échanges avec les anciens, dans les recoins des phrases, dans les moments de gêne, on sent qu'on ne peut pas oublier ces choses-là. Par exemple, on discute de la vie à l'âge d'or de Naguère, les navires d'épices, les belles maisons à Zanzibar, on est en plein rêve et soudain, le silence tombe. Et oui, parce que la notion d'esclavage est venue à l'esprit de mon interlocuteur. On ne parle pas de ces choses avec des étrangers. Et on ne peut pas non plus en faire abstraction parce que la vie quotidienne tournait autour de cela. J'ai appris qu'il ne fallait pas insister dans ces cas-là à partir discrètement.
Ça casse un peu l'ambiance. Hein ?
Oui, il y a beaucoup d'autres moments où l'ambiance se casse. Quand je discute, par exemple, paisiblement dans une ambiance fraternelle avec un habitant du lieu, et soudain, un homme à la peau noire arrive, murmure une demande anodine, et bim, votre interlocuteur bondit sur ses pieds, lève son bras, sa voix se mue en un roulement de tonnerre, son niveau de langue devient ordurier. Une ou deux fois dans ces moments-là, je pensais transporter dans le temps si on avait mis un fouet dans la main de l'autre. On avait fait un tournage hyper réaliste. Une autre fois, j'étais à un mariage traditionnel dans le désert.
Et vous nous en aviez parlé, je crois que c'était à Oman.
Oui, c'était à la frontière saoudo-omanaise, un temps très fort dans ma petite vie de voyageur. Sauf que bien sûr, il y avait un détail. Tout le monde faisait la fête, j'étais gavé comme une oie. Mais il y avait deux silhouettes là-bas, deux silhouettes d'hommes à la peau noire. J'ai regardé, jamais on ne leur a adressé la parole, jamais on ne leur a proposé le café. C'est là qu'on reste songeur.
Que nous disent ces anecdotes vécues lors de vos voyages, Joseph ?
Mais elles nous disent que dans certaines régions du monde, par exemple dans la zone de contact entre culture arabe et Afrique noire, l'esclavage perdure jusqu'à nos jours. J'ai demandé beaucoup de fois à mes amis où exactement. Ah, toujours des réponses évasives.
C'est toujours ailleurs.
Voilà, pas ici, pas chez moi. Mais au Cameroun, en discutant avec des amis camerounais, là j'ai pu avoir des réponses plus claires. On m'avait invité par exemple à N'Djamena et j'ai vu comment le visage de mon ami camerounais se décomposait quand il avait entendu cette invitation. Parce que des membres de sa tribu sont esclaves un peu dans cette région-là sahélienne. Donc jamais je n'aurais imaginé que la question de l'esclavage allait interférer avec mon militantisme dans l'autisme.
Ouais, selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, il y a actuellement plus de 40 millions de victimes de travail forcé dans le monde, qui est l'une des formes de l'esclavage moderne. Cette journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage sert aussi à nous le rappeler. Merci beaucoup, Joseph, de l'avoir fait aujourd'hui.
Merci, à très bientôt.
À dimanche prochain. Et voilà, c'est la fin des carnets. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore. Le podcast est à retrouver sur europe1.fr si vous voulez réécouter certains des reportages. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Florence Gimala qui m'a aidé à la préparer. Et on vous retrouve évidemment dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et je vais passer le témoin à Nicolas Carreau. La voix est libre, c'est dans quelques minutes. Quel est le programme, Nicolas ?
Ah, un petit événement. Aujourd'hui, je reçois le prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk, polonaise.
Super.
On va parler de cette récompense ultime. Et puis, nous visiterons la bibliothèque du philosophe Fabrice Midal.
Eh bien, on sera avec vous. On reste branchés. Merci, Nicolas. Et portez-vous bien, tous.